Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition du 15 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Au micro, Camille Grosdidier avec Anne Robertson pour Le Monde aujourd'hui. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Dans le nord du Nigeria, des habitants repoussent une nouvelle attaque de Boko Haram.
Un député local cité par le journal Daily Trust rapporte qu'environ 200 assaillants ont été tués.
Bagassi Koura nous en dira plus. Tentative d'empoisonnement présumé du président Thomas Boniyahi. Le chef de l'État béninois pardonne à toutes les personnes mises en cause.
C'est vrai que c'est une sorte d'amnistie, un pardon qui s'étend à tous les protagonistes. Et j'espère qu'il s'étend jusqu'à mon client, le juge Angelo Wusu.
On entendra la réaction de maître Alain Orunla, l'avocat qui défend le juge béninois Angelo Wusu, qui a demandé l'asile ici aux États-Unis dans cette affaire. Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre à Londres les chefs de la diplomatie des pays membres du groupe des Amis de la Syrie. Et bien sûr, vous le savez, on rejoindra Bagassi Koura pour l'actualité sportive et Roger Muntu pour la musique. Mais avant tout, le journal. Le corps de la journaliste française Camille Lepage, tuée lors d'un reportage en brousse en Centrafrique avec les milices anti-Balaka, est arrivé mercredi à Bangui. Dans un communiqué, la présidente intérimaire centrafricaine Catherine Samba Panza a condamné un crime odieux et crapuleux. Entre-temps, l'enquête sur les circonstances de sa mort se poursuit à Bangui. Des responsables de la force Sangari et de la MISCA, la force africaine, interrogeant les anti-Balaka qui se trouvaient dans le véhicule où le corps de Mademoiselle Lepage a été découvert lors d'une patrouille de la force Sangaris.
Le président François Hollande a promis de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat et retrouver les meurtriers. Le parquet de Paris a ouvert mercredi une enquête préliminaire sur la mort de Camille Lepage, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.
République démocratique du Congo, de concert avec le gouvernement et plusieurs autres agences onusiennes, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a lancé mercredi un programme conjoint de lutte contre l'impunité des violences sexuelles dans l'est de la RDC. Ce projet d'un coût de 18 millions de dollars va durer 5 ans. Il vise à appuyer également l'autonomisation des femmes dans la région.
Dans le nord du Nigeria, des villageois ont repoussé des militants présumés de Boko Haram qui étaient venus les attaquer. Ils auraient tué des dizaines de combattants. Bagassi Koura.
Les autorités affirment que les résidents de la localité de Kalabalgué dans l'état de Borno étaient prévenus de l'attaque. Un député local cité par le journal Daily Trust rapporte qu'environ 200 assaillants ont été tués. Mais ces affirmations n'ont pas été confirmées par une source indépendante. Des groupes d'autodéfense se sont formés dans le nord du Nigeria, reprochant à l'armée nigériane de n'avoir pas fait assez pour les protéger face aux attaques des islamistes. Lundi, Boko Haram a publié une vidéo montrant une centaine de jeunes filles recouvertes de la tête aux pieds par un hijab. Elles ont été présentées comme une partie des lycéennes enlevées il y a un mois dans le nord-est du pays. Dans cette vidéo, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, demande la libération de ses combattants en échange des jeunes filles. Le gouvernement d'Abuja s'est dit ouvert au dialogue. Par ailleurs, les recherches pour retrouver les captives continuent. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Israël, le Canada a annoncé l'envoi d'une force spéciale au Nigeria.
Affaire des tentatives d'empoisonnement présumées du président Thomas Boniyahi, le chef de l'État béninois a annoncé hier soir à la télévision nationale son pardon en faveur de toutes les personnes mises en cause, notamment l'homme d'affaires béninois Patrice Talon. Après avoir rendu une ordonnance de non-lieu dans cette affaire, le juge béninois Angelo Wusu avait quitté son pays pour chercher asile ici aux États-Unis. On écoute la réaction de son avocat, maître Alain Orunla, qui était joint à Cotonou.
D'abord, il ne s'agit pas d'une grâce et elle n'est pas individualisée. Le président de la République a exprimé le désir de pardonner à tous les acteurs de ces fameuses affaires d'empoisonnement et d'atteinte à la sûreté de l'État. Alors, c'est vrai que c'est une sorte d'amnistie, un pardon qui s'étend à tous les protagonistes et j'espère qu'il s'étend jusqu'à mon client, le juge Angelo Wusu. Nous exprimons notre vive satisfaction et nos vifs remerciements au président de la République qui a pris un acte salutaire, un acte à la hauteur de la République, et nous l'encourageons à ne pas le regretter et à poursuivre ainsi jusqu'à la fin de son deuxième et dernier mandat.
Maître Alain Orunla, joint à Cotonou.
Les États-Unis souhaitent un déploiement rapide de soldats africains au Soudan du Sud pour veiller à la mise en œuvre de l'accord de paix signé la semaine dernière entre les deux belligérants. Jacques Aristide.
Washington, parrain de l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011, fait pression depuis des mois sur le président Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar, pour qu'ils cessent leur guerre meurtrière commencée à la mi-décembre. Sous la pression des États-Unis, les deux rivaux ont fini par paraffer le 9 mai dernier à Addis Abeba un accord de cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais 24 heures après sa signature, chaque camp accusait l'autre d'avoir repris les combats. Pour la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, cela ne signifie nullement que l'accord soit en train d'échouer. Selon elle, il faudrait avoir rapidement des troupes de l'IGAD pour surveiller sa mise en œuvre sur le terrain. Madame Thomas-Greenfield a averti que la famine pourrait sévir si les combats continuent. Lors de sa tournée en Afrique au début de ce mois, le secrétaire d'État américain John Kerry s'était assuré du soutien de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Kenya pour mettre sur pied une force panafricaine de quelque 2500 soldats pour le Soudan du Sud après une résolution de l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est à Israël et aux Palestiniens de décider s'ils veulent reprendre les négociations de paix au Moyen-Orient, a dit mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry. Monsieur Kerry a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Londres pour la première fois depuis que les pourparlers de paix sont tombés dans l'impasse le mois dernier. Selon un responsable du département d'État, Monsieur Kerry a réitéré le soutien des États-Unis au peuple palestinien, tout en soulignant que le gouvernement palestinien doit reconnaître Israël, s'engager en faveur de la non-violence et respecter les accords déjà conclu.
Le Congrès américain débat actuellement de la possibilité de bloquer des millions de dollars d'aide à l'autorité palestinienne en raison de son projet visant à former un gouvernement d'union avec le Hamas, les militants islamistes qui gouvernent la bande de Gaza. Les États-Unis et Israël considèrent le Hamas comme un groupe terroriste. M. Kerry est à Londres pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays appuyant l'opposition au président syrien Bachar al-Assad.
En Turquie, les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants après une explosion suivie d'un incendie au fond d'une mine de charbon. Le bilan de la tragédie, qui pourrait s'alourdir, est d'au moins 274 morts, ce qui en fait la pire catastrophe du secteur minier dans l'histoire du pays.
Près de 450 mineurs ont pu être secourus, mais environ 120 seraient piégés à l'intérieur de la mine dans la ville de Soma au sud d'Istanbul. Les opérations de secours sont entravées par une fumée épaisse ainsi que des gaz toxiques.
En raison du changement climatique, les cyclones tropicaux migrent vers les pôles, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature. Elle précise que les cyclones atteignent une intensité maximale plus loin de l'équateur et plus près des pôles. Au cours des 30 dernières années, l'endroit où ces puissantes tempêtes ont atteint leur force maximale a donc bougé de 53 km par décennie dans l'hémisphère nord et de 62 km par décennie dans l'hémisphère sud.
Ce qui signifie entre autres que des régions tropicales qui dépendent des pluies entraînées par les cyclones pour maintenir leurs ressources en eau risquent de voir leurs réserves diminuer avec l'éloignement des tempêtes.
Cinéma, pour terminer, les stars ont foulé hier le tapis rouge pour assister à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, le 67e du genre. Issa Napon.
Les stars étaient à l'affiche hier sur la Canebière pour l'ouverture du Festival de Cannes. Les membres du jury présidé par Jane Campion sont également sur place pour magnifier le 7e art. Le cinéaste Alfonso Cuarón, Oscar du meilleur réalisateur avec Gravity, et l'actrice française Kiara Mastroianni ont été les choix pour ouvrir cette 67e édition. Une ouverture suivie par une projection de gala du film d'Olivier Dahan intitulé grâce de Monaco. Ce film, hors compétition, a reçu un accueil glacial hier par la presse. L'équipe de tournage est cependant restée sereine, à l'image de Nicole Kidman, qui affichait de grands sourires sous les crépitements des flashs. La course à la Palme d'Or débute aujourd'hui avec la projection des films Mr. Turner du Britannique Mike Leigh et Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako, seul sélectionné pour défendre les couleurs de l'Afrique.
Merci Anne Arbetson, on vous retrouve en fin d'émission. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Plus de 33 millions de personnes étaient déplacées internes à la fin de 2013 du fait des conflits et de la violence, soit une hausse de 4,5 millions par rapport à la fin de 2012. Le point avec Darina Naidoo.
C'est ce qu'affirme un nouveau rapport présenté mercredi par l'Observatoire des situations de déplacement interne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Selon ce rapport, 63% du déplacement interne de population dans le monde concerne 5 pays, la Syrie, la Colombie, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Soudan. Rien qu'au Nigeria, quelque 3,3 millions de Nigérians ont été déplacés par le conflit dans le nord où la milice extrémiste islamiste Boko Haram cherche à imposer la charia. Le patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a estimé que nous devrions tous être inquiets de ces chiffres et de cette tendance à la hausse. À la fin 2013, 8,2 millions de personnes étaient nouvellement déplacées, dont 43% sont des Syriens déplacés dans leur pays. Le rapport fait état de l'effroyable réalité de la vie à l'intérieur de la Syrie, où se trouve désormais la plus importante population de déplacés internes au monde, a dit Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés qui a participé à l'élaboration du rapport.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est aujourd'hui à Londres pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays appuyant l'opposition au président syrien Bachar al-Assad. Les précisions de Michel Joseph.
Ces pays renforcent leur soutien à la rébellion en l'absence de pourparlers sur un gouvernement de transition à Damas. Les efforts internationaux pour une solution politique en Syrie sont en effet dans l'impasse. En démissionnant de son poste, le médiateur Lakhdar Brahimi s'est malgré tout dit convaincu que le conflit finira par trouver une issue.
The question is, how many more dead?
La question est de savoir combien de morts et de destruction il faudra voir encore avant que la Syrie ne redevienne la Syrie que nous avons connue. Pour le secrétaire d'État Kerry, le président syrien Assad constitue le principal obstacle à une solution politique.
This represents a continuation of the stubborn clinging to power.
C'est l'obstination d'un homme qui, pour s'accrocher au pouvoir, est prêt à user de bombes et de gaz contre son propre peuple, à utiliser l'artillerie lourde contre des civils innocents et à affamer les gens chez eux, tout en réclamant le droit de diriger le pays. Je ne crois pas que ce sera toléré par le monde civilisé. Le président Bachar al-Assad va briguer un autre mandat à la tête de la Syrie et qualifie ses adversaires de terroristes qui cherchent à renverser la démocratie syrienne. Et il semble en position de force. L'ancien ambassadeur américain Adam Erili.
Bachar al-Assad is not going to make any concessions.
Bachar al-Assad ne va faire aucune concession. Il ne négociera pas de bonne foi et n'envisagera aucun changement au statu quo tant qu'il contrôlera la situation. Les leaders de l'opposition syrienne voudraient que la communauté internationale fasse plus pour affecter un tel contrôle, Rimé Alaf. Nous demandons la neutralisation de l'aviation pour faire comprendre au régime Assad qu'il ne peut pas avoir une victoire militaire. Si on fait pression sur ce régime, nous pensons que ses parrains, les Russes et les Iraniens, comprendront qu'une solution politique est la seule issue.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi, tout sur Boko Haram. Le sort des jeunes filles enlevées par le groupe islamiste nigérian continue de mobiliser la planète. Au-delà du kidnapping, beaucoup de questions demeurent. vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
6h15, temps universel. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Camille Grosdidier avec vous. Important grenier, riche en matières premières et forte de son milliard d'individus et de la formidable croissance de sa classe moyenne, l'Afrique se présente aujourd'hui comme la prochaine grande société de consommation mondiale. Mais voilà, ce marché reste largement inexploité, même si les multinationales du monde entier s'y intéressent. Au Bénin, le Conseil national des associations de consommateurs se propose d'organiser en juin des assises nationales des consommateurs. Opérateurs économiques, pouvoirs publics et citoyens vont se réunir autour de la défense du droit des consommateurs pour tenter de lever les goulots d'étranglement. Je vous propose de suivre le reportage de Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
Le consumérisme en Afrique est encore embryonnaire. Mis à part quelques associations qui se démènent sur le chemin chaotique de la défense des droits du consommateur, très peu de personnes ont conscience de leurs droits en tant que consommateurs. Un chantier que s'est infligé le Conseil national des associations de consommateurs à travers la tenue en juin prochain des assises nationales des consommateurs. Robin Akrobassi, président du Conseil.
Il faut reconnaître que le peuple béninois n'était pas très accoutumé à la culture associative. Ce dont il est question, c'est de mobiliser suffisamment et convenablement les Béninois autour de la question associative dans le secteur de la consommation.
Quelles sont les motivations de cette décision-là de les mettre ensemble?
La notion de solidarité qui est un devoir essentiel pour le citoyen consommateur parce que c'est seulement quand vous êtes nombreux que vous êtes plus fort. C'est quand vous arrivez à créer des lobbies, des groupes de pression assez impressionnants que vous pouvez orienter les décisions de certaines instances qui décident du destin de toute une nation. Et donc, il faut que les Béninois commencent par s'organiser à la base.
Des consommateurs issus de tous les corps de la société béninoise seront réunis pendant 3 jours pour réfléchir aux moyens qui permettront de dynamiser le consumérisme au Bénin. Robin Akrobassi nous donne ici l'une des pistes sur lesquelles pourraient déboucher les assises.
Nous aurons des démembrements d'associations de consommateurs au niveau de toutes les communes, en sorte que les gens pratiquent l'exercice même de la défense de leurs droits et intérêts au niveau des communes et que sur le plan national, on ait ainsi de puissants lobbies.
La question des mobilisations des ressources financières est l'une des difficultés majeures qui s'imposent aux associations de consommateurs. Il faut négocier avec tact pour convaincre des partenaires qui pourraient bien pâtir des actions ultérieures des associations. Simon Rolonou Narcisse, membre du Conseil national des consommateurs, nous explique.
Ce n'est pas le fait que ces structures-là auront à participer financièrement qui nous empêcherait, n'est-ce pas, de poser des actes, puisque nous ne suivons que la vérité de nous autres. Parce que ce que nous disons, c'est de la vérité, eh bien, on peut envoyer donc beaucoup d'argent, mais ça n'empêcherait pas que nous posions des actes. Le fait qu'ils sont obligés de participer à cette situation n'est pas quelque chose qui va nous bloquer nous autres.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. Les États-Unis sont à 6 mois des législatives de novembre. Mais déjà, les démocrates redoutent que leurs électeurs soient moins enthousiastes aux urnes que ceux de leurs adversaires républicains. Timothée Donangmaï.
Les années où les législatives américaines ne sont pas couplées aux présidentielles sont toujours marquées par un faible taux de participation. C'est le cas cette année et cela préoccupe le président Obama et les démocrates. Le chef de l'exécutif tente de battre le rappel des troupes.
We're going to have to make sure that we are coming out.
Nous allons veiller à ce que nous sortions avec le même sens d'urgence et le même enthousiasme que durant les années présidentielles. En face, les républicains misent sur le mécontentement des Américains au sujet d'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie, pour galvaniser leurs électeurs, explique l'analyste Charlie Cook. En année d'élection présidentielle, le taux de participation est élevé et la participation est plus diversifiée, plus ou moins à l'image du pays. Mais aux élections de mi-mandat, Lorsque le taux de participation est moindre, la participation est plus blanche, plus conservatrice et plus républicaine. Elle est vraiment différente. C'est un défi majeur pour les démocrates, souligne Celinda Lake, une spécialiste démocrate des sondages. Le taux de participation sera un grand problème pour les démocrates, surtout parmi les jeunes qui sont très découragés vis-à-vis de l'économie, les femmes non mariées, les Africains-Américains, les Latinos, des électorats importants pour nous. De l'avis de Carlin Bauman du Cercle de réflexion American Enterprise Institute, les républicains sont donnés favoris pour conserver leur majorité à la Chambre des représentants et pourraient même engranger des gains pour reprendre le contrôle du Sénat. Ces compétitions au Sénat sont d'un enjeu élevé. Les républicains voudraient désespérément gagner au Sénat et même y avoir une décente marche victorieuse pour tenter de faire passer leur propre projet.
On enchaîne avec les sports en compagnie de Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
On commence avec le football européen. Hier soir, en finale de la Ligue Europa, le FC Séville a battu Benfica de Lisbonne à l'issue des tirs au but 0-0, 4-2 à Turin. Après 2006 et 2007, les Espagnols ont donc raflé leur troisième Coupe d'Europe. Pour les Portugais, c'est la huitième finale continentale de suite. Perdu. Et puis, à un mois de la Coupe du Monde de football, l'entraîneur du Brésil, le pays hôte, a des problèmes.
Oui, le sélectionneur du Brésil, Luis Felipe Scolari, a été mis en examen pour fraude fiscale au Portugal. L'enquête porte sur des faits remontant à la période 2003-2008, quand Felipão, comme on l'appelle, était sélectionneur du Portugal. La justice portugaise reproche à Luis Felipe Scolari de ne pas avoir déclaré des gains de 7 millions d'euros. Selon le journal brésilien Folha de São Paulo, cité par l'agence France-Presse, Scolari a démenti avoir commis quelques irrégularités que ce soit.
C'est difficile à croire, mais le gouvernement britannique ne croit pas aux chances de son équipe en Coupe du Monde.
L'Angleterre n'ira pas loin. C'est ce que laisse croire un document du ministère de l'Intérieur britannique qui souligne que l'équipe nationale risque de ne pas survivre à la phase initiale des poules au Brésil.
Si en Angleterre, c'est le gouvernement qui est pessimiste, par contre en Allemagne, c'est le public.
Oui, seulement 6% des Allemands croient que leur équipe remportera la Coupe du Monde au Brésil selon un sondage publié ce mercredi. Alors que la Mannschaft fait partie des favoris du tournoi, seuls 11% des personnes interrogées pensent qu'elle atteindra la finale selon un sondage de l'Institut Forza, publié par le magazine Stern. Une grande partie des Allemands, 41%, pensent que la sélection nationale s'arrêtera au stade des demi-finales. Pour 28% d'entre eux, l'équipe allemande sera même battue dès les quarts de finale.
En NBA, les championnats nord-américains de basketball, les Detroit Pistons, ont un nouvel entraîneur.
Oui, il s'agit de l'Américain Stan Van Gundy, qui sera aussi le président du club de la capitale de l'automobile. Van Gundy, 54 ans, avait conduit Orlando en finale de la NBA en 2009 et affiche un bilan de 371 victoires pour 208 défaites en deux saisons passées au Miami Heat et 5 à Orlando. Les Pistons ont remporté le titre NBA à trois reprises. La dernière remonte à 2004. Et Camille, les playoffs de la NBA se poursuivent.
Oui, hier soir, le Heat de Miami, double tenant du titre NBA, a battu de justesse 96-94 les Brooklyn Nets. Et dans l'autre match de la soirée, par contre, les San Antonio Spurs n'ont laissé planer aucun doute dans leur match de demi-finale de conférence face aux Portland Trail Blazers qu'ils ont expédié sur le score de 104-82.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain, Dembaba ou Samuel Eto'o? Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Camille. La planète rap a un roi. Il s'appelle Dr. Dre. Il s'est auto-intronisé en affirmant être la première personnalité hip-hop milliardaire après le rachat imminent de sa marque d'équipement audio par Apple. Dr. Dre en featuring avec Eminem et Skylar Grey nous chante ce matin I need a doctor.
I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor, doctor, to bring me back to
La nouvelle a fait le tour du monde le week-end dernier. Dr. Dre, de son vrai nom André Young, est sur le point de devenir la première personnalité hip-hop milliardaire.
Oui Camille, et c'est lui-même qui l'annonce dans une vidéo postée par le chanteur et acteur Tyrese sur Twitter. Forbes Magazine met à jour sa liste des personnalités hip-hop les plus riches. Et cette année, Dr. Dre apparaît en deuxième position avec des actifs estimés à 550 millions de dollars. Il vient juste après l'artiste P. Diddy qui lui a 700 millions de dollars avec l'achat de la marque Dre par Apple. Les données vont peut-être bientôt changer.
Dr. Dre avec Eminem et Skyla Gray, I Need a Doctor. Merci Roger.
De rien Camille, et un grand coucou à tous les amis qui nous suivent régulièrement à N'Djamena.
Vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show ce soir à 20h temps universel. En universel, vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, un rappel des titres avec Anne Albertson.
Meurtre de la journaliste française Camille Lepage en Centrafrique, la présidence Catherine Samba-Panza a condamné un crime odieux et crapuleux. Dans le nord du Nigeria, des villageois ont repoussé des militants présumés de Boko Haram qui étaient venus les attaquer. Des dizaines de combattants auraient été tués. Affaire des tentatives d'empoisonnement présumées du président du Bénin, Thomas Boni Yayi a annoncé le pardon de toutes les personnes mises en cause. Les États-Unis souhaitent un déploiement rapide de soldats africains au Soudan du Sud pour veiller à la mise en œuvre de l'accord de paix signé la semaine dernière entre les deux belligérants. En Turquie, les secouristes tentent toujours de retrouver les survivants après une explosion dans une mine de charbon. Le bilan est d'au moins 274 morts.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui. Présentation Camille Grodiquier et Anna Watson. Merci à la rédaction et chers auditeurs, très bonne journée. À bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.